Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Le mois dernier, le Secours catholique a présenté son rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans le Rhône et en France. Rencontre avec Georges Bollon, président du Secours catholique du Rhône. Bonjour.
Bonjour.
Qui sont un petit peu les personnes rencontrées par le Secours catholique du Rhône en 2017? Comment elle était cette année 2017?
Cette année 2017, elle a été dans la continuité, et on peut dire malheureusement, puisque en fait la pauvreté reste forte dans le Rhône, dans la métropole. Et on peut dire en fait que la typologie des personnes qui franchissent nos accueils, elle est partagée en quatre parts à peu près égales. Ce sont soit des familles avec les deux parents et enfants et qui ont des soucis de généralement d'endettement ou de cet ordre-là, soit des familles monoparentales, donc avec les difficultés particulières de familles monoparentales, des personnes seules, qui sont plus souvent des personnes étrangères, plus jeunes, et des seniors, oui, bien sûr, oui, des seniors. Les seniors, c'est-à-dire qu'on voit apparaître une pauvreté des seniors qui est un peu plus grandissante, c'est-à-dire que les problèmes de retraite, en fait, ou de minimum vieillesse, qui ne suffisent pas, en fait, à boucler.
Finalement, c'est un peu comme si toutes les franges de la population étaient quasiment concernées, alors?
Oui, 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 on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie dominante dans les personnes que nous accueillons, si ce n'est quand même une croissance, hein, il faut le dire, une croissance des personnes étrangères. Mais en fait, dans le profil type des familles et des profils types, on voit qu'il est très réparti et que chaque profil en fait a des particularités.
Par exemple, lesquelles?
Les familles monoparentales, c'est des difficultés, évidemment, souvent ce sont des femmes, hein, bien sûr, et donc difficultés dues au fait qu'elles doivent assumer seules la tenue de leur famille, souvent avec des problèmes d'emploi, des problèmes de logement, donc, et c'est des choses très classiques qui perdurent en fait, donc c'est un soutien qu'on doit leur apporter, d'abord, comme pour tous les types d'ailleurs de personnes que nous recevons, le premier soutien qu'elles demandent, c'est d'abord de les écouter. Les questionnaires que l'on fait auprès des personnes, les sondages en tout cas qui sont faits régulièrement, montrent que la première demande des personnes qui viennent nous voir, c'est d'abord de pouvoir se poser et de pouvoir être écouté. Et puis ensuite, après, vient la question de l'aide, soit de l'aide dans les démarches, soit de l'aide financière. Mais déjà, le fait d'être écouté, c'est primordial, parce que souvent, c'est des difficultés très fortes. Les personnes qui viennent nous voir, c'est les pauvres des pauvres. Hein. C'est des personnes qui sont menacées d'isolement, hein, souvent, parce que si elles sont dans cet état-là, c'est souvent qu'elles n'ont pas eu de point d'appui à l'extérieur.
Justement, ça fait plusieurs années qu'on vous suit, ça fait plusieurs années qu'on suit ce rapport annuel. Et c'est vrai que ce besoin d'être accueilli, écouté, c'est quasiment toujours celui-là qui est mis en avant en premier, année après année. Ça évolue pas finalement, l'écoute en dehors du Secours catholique n'évolue pas, il n'y a pas d'autres points, pas d'autres lieux où ces pauvres peuvent trouver un vrai réconfort.
On ne prétend pas être les seuls, hein, bien sûr, hein. Non, je pense qu'on est d'ailleurs, on n'est jamais trop nombreux, hein, pour répondre à ce besoin fondamental, donc d'autres associations, d'autres partenaires jouent ce rôle d'écoute. Je crois que même c'est ressenti de façon un peu universelle par les associations humanitaires, hein, que la rencontre est primordiale. Simplement, on a chacun un peu notre tonalité et nous, on veut mettre l'accent sur l'accompagnement. Et l'accompagnement qui permet à la personne qui vient nous voir de prendre sa place, de prendre la parole, de se remettre debout. Et c'est pas d'abord de lui fournir à manger ou de lui fournir un logement, on en est bien incapable, hein, donc, puisqu'on n'a pas d'hébergement. Mais c'est de l'accompagner dans ses difficultés, mais ne pas faire à sa place et donc lui permettre d'agir. Et pour ça, on essaye de développer un peu des méthodes de plus en plus actives, on peut dire, pour qu'à partir de l'écoute, la personne puisse d'abord, si possible, s'il y a besoin, bien sûr, il y a une aide financière, hein, c'est pour ça qu'on fait appel aux donateurs, d'ailleurs, ça reste prégnant, bien sûr. Mais il y a aussi le fait de se retrouver collectivement, de pouvoir regrouper, par exemple, des personnes qui ont les mêmes difficultés, de manière à ce qu'elles puissent s'entraider ou prendre une parole collective. Donc ça, c'est très important. Et puis, si on veut encore monter d'un cran, c'est aller rencontrer des personnes, des institutions publiques qui sont concernées par leurs problèmes ou leurs droits, de manière à ce qu'il y ait un meilleur accès à leurs droits ou une meilleure résolution de leurs problèmes. On sait que les problèmes du logement, par exemple, sont très importants. Hein. On reçoit beaucoup de personnes qui sont sans domicile. Donc, comment faire que cette chaîne du logement, entre l'hébergement d'urgence et puis le logement social, voire le logement classique, se détende? Donc ça, c'est une question qu'on peut aborder avec les personnes qui souffrent directement de cette pénurie de logements.
On va en parler, du logement, c'est prévu. Les revenus des personnes accueillies est en baisse. Il a baissé de 33 euros par rapport à 2016. On atteint quand même 561 euros, ça fait pas grand chose pour vivre. Comment vous l'expliquez, cette baisse-là, aujourd'hui ?
On n'a pas vraiment d'explication. Est-ce que c'est parce que c'est des personnes de plus en plus pauvres qui viennent nous voir ? Ça peut être ça. Ou est-ce que c'est les revenus, effectivement, des personnes qui, en moyenne, ont baissé ? Et ça demanderait une analyse approfondie. On n'a pas eu le temps encore de faire cette analyse. Mais simplement, l'important, c'est de considérer que 561 euros, c'est la moitié du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on l'entend bien, il n'est déjà pas suffisant pour vivre, puisque tout ce qu'on entend dans l'actualité avec les gilets jaunes, c'est que même avec au-dessus, avec le SMIC, les personnes qui travaillent ont aussi des difficultés. Mais donc on peut imaginer, a fortiori, qu'avec le tiers du SMIC, presque le tiers du SMIC, on a d'extrêmes difficultés à survivre. Donc les personnes que nous voyons sont en très très grande tension sur le plan de la survie. Et de ce fait-là, elles vont se priver de choses essentielles qui vont être soit l'alimentation, soit les soins, soit les loisirs, bien sûr. Donc, mais des choses essentielles, ça peut être les soins dentaires qui coûtent beaucoup, les lunettes, etc. Ou des opérations qui pourraient être nécessaires et ils vont suspendre ou en tout cas prendre un délai avant d'avoir les soins. C'est vraiment de la survie, quoi. Donc les personnes que nous rencontrons, et elles ont une capacité à vouloir se relever qui est très importante. Il faut avoir conscience que les personnes qui viennent nous voir, on les écoute, on leur donne la possibilité de parler, d'agir, de se rencontrer, de vivre des choses normales. Dans les groupes et nos équipes, on essaye d'avoir avec elles de la vie normale. Préparer un repas, aller au cinéma, faire des choses, des sorties, marcher ensemble, etc. Enfin, donc, vivre. Elles ont ce désir. Et à partir du moment où elles peuvent satisfaire ou aborder cette façon de vivre, tout devient possible, en fait.
De plus en plus de personnes accueillies par le Secours catholique aujourd'hui travaillent et ne reçoivent pas d'aide sociale, ça veut dire qu'elles ne vivent qu'avec leurs revenus. Cette tendance, elle vous inquiète de se dire que finalement les gens sont de plus en plus pauvres avec leurs revenus du travail ?
Oui, bien sûr, c'est inquiétant. Maintenant, il faut regarder, chaque situation est un cas particulier. Il y a bien sûr un ensemble qui fait que maintenant, avec un salaire, on trouve des personnes en situation de précarité. C'est quand même très inquiétant. Et ça vient essentiellement, là on peut revenir à la question du logement, parce que pourquoi il y a à la fois le logement qui devient de plus en plus cher, c'est-à-dire le logement a augmenté beaucoup plus vite que les salaires, et puis également l'énergie. Tout ce qui est l'énergie, l'électricité, etc. Donc tout ce qui va tourner autour du chauffage et des transports. Transport, voiture, bien sûr, mais les transports publics augmentent aussi, qu'il faut en avoir conscience. Donc toute cette partie du budget, qui est une partie incontournable, a augmenté bien plus que les revenus. Donc de ce fait-là, le reste à vivre, on peut dire, diminue très fort. Évidemment, petit à petit, ça donne l'impression, mais réelle, que le niveau de vie baisse. Donc cette situation est relevé aussi par les gilets jaunes. Et c'est un vrai sujet, comment éviter que des personnes qui travaillent se sentent proches de basculer dans la précarité.
Dans le rapport, on voit que 23% des personnes vivent dans un logement précaire. Comment ça évolue, cette tendance, depuis plusieurs années ? 23%, c'est quand même plus de 2 personnes sur 10.
On est très inquiet. Alors, l'hébergement précaire, c'est soit des hébergements d'urgence, soit des squats, soit la rue. Donc c'est très 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 précaire. On a de plus en plus de personnes dans la rue. Dans la métropole de Lyon, c'est entre 1000 et 2000 personnes. Donc c'est énorme. Cette situation a fortement empiré dans les dernières années. Donc là, on n'est pas sur une bonne pente. Bien sûr, le problème est très difficile à résoudre. On sait que l'État fait des efforts. Il y a des augmentations de places qui sont offertes régulièrement tous les ans. Mais on n'arrive pas à suivre le besoin. Et il y a une question d'engorgement, en fait, de la chaîne du logement entre l'hébergement d'urgence, les logements très sociaux et puis les logements sociaux, qui fait que les personnes qui sont en hébergement d'urgence, qui ne devraient y rester que quelques semaines ou quelques mois, en fait, n'arrivent pas à déboucher sur des logements plus pérennes. Du coup, le 115, qui normalement devrait pouvoir héberger tous les appels des sans-domicile, n'arrive pas à assumer sa fonction. La majorité des appels ne sont pas satisfaits.
Vous nous disiez tout à l'heure au début de l'entretien que le Secours catholique peut malheureusement pas faire grand-chose dans ces situations de logement. Comment vous les traitez, j'ai envie de dire, ces sujets-là, ces personnes qui arrivent sans domicile fixe, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ?
L'écoute, l'accueil et la pause dans la journée. Nous n'avons pas d'hébergement au Secours catholique parce qu'il y a beaucoup d'autres structures qui font de l'hébergement dans la métropole et dans le département, et associatives ou publiques. Et donc, on ne s'est pas organisé pour ça dans la délégation, ce qui peut exister dans d'autres délégations. Donc, on est en lien avec ces structures. On sait, tout est organisé par l'État, en fait, pour tout ce qui est hébergement d'urgence. Donc, en fait, on est en lien avec les structures de l'État. Mais le constat, c'est la saturation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille ces personnes dans nos équipes pour la journée, quoi. Mais avec la difficulté, c'est que on ne peut pas leur offrir de nous-mêmes, en tout cas au sein de notre association, un hébergement. Donc c'est soit les orienter, les accompagner dans leur parcours social, soit avec les services sociaux, bien sûr. Il faut toujours renvoyer aux institutions dont le métier, en fait, est de voir comment une solution peut être trouvée à une situation sociale difficile, et spécialement parce qu'on le sait, il y a des familles avec enfants qui sont à la rue. Donc ça, c'est quand même scandaleux pour notre époque, et surtout compte tenu du niveau de richesse de la France, quoi.
De plus en plus d'écoles, notamment, se mobilisent aussi pour que les enfants ne restent pas à la rue. On parlait des migrants aussi au début de l'entretien. La fréquentation de votre accueil spécialisé pour les personnes migrantes a fortement augmenté en 2017. Qui sont-ils, ces migrants? Ça fait des années maintenant qu'on parle de ces migrants.
Oui, alors dans l'accueil des migrants, en fait, on a deux volets d'activité qui sont le volet d'accueil des personnes seules, sans hébergement, d'une part, adultes, et puis on a un volet qui est l'accueil des mineurs. Dans l'année 2017 et l'année 2018, on a eu une forte augmentation de l'accueil des migrants qui nous a mis sous pression, en fait, et donc... On a fortement été sollicité pour soit des aides administratives pour les adultes, des aides aussi de l'accueil convivial. On a des ateliers collectifs aussi pour ces migrants qui sont des ateliers de français, d'apprentissage du français, mais aussi d'autres ateliers comme la couture ou des choses comme ça, la peinture, du sport aussi. Donc parce que aussi pour ces personnes-là, ces personnes migrantes, c'est important d'avoir une activité alors que souvent elles sont bloquées dans leur parcours administratif. Soit elles sont demandeurs d'asile, elles sont en attente d'une réponse, soit elles ont été déboutées et à ce moment-là se pose pour ces personnes-là la question de leur avenir et de leur survie aussi, puisque déboutées, il n'y a absolument aucun revenu. Donc ça, c'est le volet adulte. Et puis le volet mineur, alors là, a eu une croissance encore plus forte depuis 2017-2018, qui continue, mais se stabilisant, mais à un niveau assez fort. Ce qui a obligé à nous réorganiser. On s'est réorganisé parce que ça mettait en péril cet objectif que l'on a de rentrer en lien avec les personnes qui viennent nous voir et ne pas devenir des distributeurs. Certains bénévoles nous disaient on est devenus des distributeurs de café, mais en fait, il n'y avait plus de lien, quoi. On s'est recentré en fait sur cet objectif, je veux dire, les personnes migrantes qui ont vécu souvent des drames pour atteindre notre pays. Ont besoin de se poser, ont besoin d'oreilles pour les écouter, ont besoin aussi de prendre la parole, de témoigner de leur vie, de leurs désirs, etc. Et de leur capacité, souvent elles ont un grand désir d'intégration en fait. Il ne faut pas avoir le souci de dire mais est-ce qu'ils veulent s'intégrer, mais ils ont un grand désir d'intégration. Et souvent beaucoup de capacités dans des professions qui peuvent être utiles à notre pays. Quand on les rencontre, il y a quelque chose qui peut se passer. Donc nous, on invite beaucoup les personnes qui peuvent craindre, parce que dans le pays, on entend beaucoup de craintes et de peurs à ce sujet-là. Mais la première chose déjà, c'est essayer. Il y a des tas de moyens de rencontrer des personnes migrantes qui viennent d'arriver dans notre pays. Allez les voir, allez parler, et puis ensuite, après, vous ferez votre opinion. Et là, on est dans l'humain, quoi. On n'est pas dans le fantasme, quoi. Il faut être dans la réalité de la relation.
Une des grandes thématiques traitées cette année dans votre dossier annuel, c'est la protection sociale. Donc une grande enquête a été menée, une enquête nationale a été menée. Qu'est-ce que le Secours catholique retire de cette enquête? Globalement, quelle vision, quel regard est-ce que vous avez pu percevoir au travers de cette enquête?
Si vous voulez, la protection sociale... On a beaucoup de personnes qui font part de dysfonctionnements. On sait qu'il y a le non-recours à un certain nombre d'allocations, qui est important. alors que des personnes ont droit soit aux allocations familiales, soit au RSA. Il y a des proportions importantes de population qui ne vont pas avoir recours. Donc il y a ce problème qui est très important. Il y a le problème de la fracture numérique. De plus en plus de démarches, et l'objectif d'ailleurs affiché de l'État, c'est que les démarches soient informatisées à 100%. Or, on sait qu'il y a plus de 10% de la population qui n'a pas accès à Internet, pour des raisons diverses. Soit parce que c'est une population qui n'a jamais eu accès, qui ne va pas pouvoir s'y mettre. Hein. On a eu l'exemple, nous, d'une personne depuis 80 ans, qui est allé à un service public et a dit « Mais moi, j'ai pas Internet pour faire une démarche. » Et on lui a dit « Mais madame, il faut vous y mettre. » Bon, donc c'est quand même un peu raide comme réponse. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. On peut concevoir qu'il y ait un aspect pratique, à la fois des économies aussi, il ne faut pas se cacher. On voit bien que les services publics cherchent à économiser des frais. Mais il faut qu'en parallèle, il y ait des possibilités d'accès pour les personnes qui, de toute façon, n'ont pas les moyens aussi de s'acheter un abonnement Internet. Donc ça, c'est important, cet aspect-là. Et puis, il y a aussi le dispositif social dont on sent qu'il est menacé. Là aussi, il faut faire des économies, donc il va falloir tirer dessus. Et ça nous inquiète beaucoup. Il faut rappeler que tout le dispositif de sécurité sociale, il a été mis en place pendant la guerre, c'est la résistance qui a imaginé ce dispositif et ça a été mis en place à la sortie de la guerre. À la sortie de la guerre, la France était complètement à genoux sur le plan financier. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place ce dispositif social. On n'en est pas là, nous, même s'il y a des difficultés financières, on ne peut pas dire qu'on en soit là. Donc le message que le Secours catholique veut apporter, c'est de dire mais c'est pas parce qu'il faut boucler les budgets, bien sûr, il faut respecter les règles financières, mais la solidarité au sein de la nation, sur le plan social, elle peut s'affirmer, elle peut quand même s'affirmer et elle doit s'affirmer. Et on a certainement les moyens, donc il faut la repenser en fonction des situations actuelles et pour faire jouer. Et puis c'est cette solidarité d'ailleurs qui va faire la cohésion du pays. Enfin, c'est ça le message principal qu'on aimerait entendre en fait des pouvoirs publics et qu'ils soient bien défendus et que l'opinion ne soit pas alimentée par des messages comme quoi les pauvres sont des profiteurs. Ça, c'était notre campagne de l'an dernier sur les préjugés. C'est un peu des fake news quand on regarde souvent les faits. Ben notamment le non-recours, on voit bien, le non-recours, les personnes en précarité souvent ne disposent pas de tous les droits auxquels elles pourraient avoir accès.
Rapidement, du coup, le Secours catholique souhaite un nouveau contrat social, donc moins exclusif. Quelles en seraient les bases, finalement, pour simplifier un peu la question? Quelle piste de réflexion le Secours catholique propose-t-il?
On peut dire que la piste principale, c'est que le revenu minimal social de base devrait être à un niveau de l'ordre de 850 euros par mois. Les minima sociaux sont insuffisants, en fait. Ils font perdurer des situations de précarité dont la société française paye le coût aussi. Si vous ne donnez pas suffisamment à une personne pour qu'elle puisse vivre, s'alimenter, se soigner à minima et puis faire vivre ses enfants, enfin, venir à la scolarité, etc. À ce moment-là, ça finit par se payer d'une façon ou d'une autre. Je vous donne un exemple. Si la personne ne peut pas se soigner, si elle finit par aboutir à l'hôpital, connaissant les prix de journée à l'hôpital, finalement, la société française va le payer bien plus cher que ce qu'on aurait pu accorder, parce que toute personne a droit à une vie digne, même si elle a eu des accidents dans la vie et où elle a été cabossée. La mesure principale que préconise le Secours catholique, c'est ce revenu minimal de base. Donc de revoir et puis de simplifier. Ça simplifierait justement, ça permettrait un accès aux droits beaucoup plus facile à partir du moment où ce revenu serait unique. Donc là, on sait que cette préconisation est envisagée par le gouvernement. Donc on va être très attentif, bien sûr, à sa mise en œuvre. On sait que la métropole de Lyon est partante pour être territoire expérimental sur ce sujet. Donc on va avoir beaucoup d'intérêt à accompagner cette mesure. Puis autrement, il y a d'autres mesures. Mais on peut dire d'une façon générale, c'est ne pas refondre la protection sociale sans donner la parole, c'est-à-dire faire intervenir directement les personnes qui vivent des situations. Si on parle de logement, il faut laisser parler les personnes qui ont des difficultés de logement. Si on parle d'emploi, la même chose. Si on parle d'alimentation, si on parle de santé. Donc là, on a des témoignages, nous, qu'on peut apporter avec des personnes que nous rencontrons qui peuvent parler sur tous ces sujets.
Merci beaucoup, Georges Bollon, pour toutes ces informations. Et on rappelle donc que vous êtes président de la délégation du Rhône du Secours catholique. Merci.
Merci. We'll be right back.